C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, eh bien, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Et ce matin, c'est monsieur Adjan Chellil en personne qui m'accompagne. Salut Adjan.
Salut Thibaut, ouais, c'est moi qui t'accompagne ce matin.
Oh, t'as une petite voix.
Ouais, petite voix un peu, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est une journée où il va jamais vraiment faire jour, tu sais, ce genre de journée où il pleut, la journée, le ciel est bas.
Winter is coming.
Ouais, moi, c'est pas mes journées, ces journées-là. J'ai besoin d'hiberner, de rester dans mon bureau, caché. Donc, voilà pourquoi la petite voix. Mais bon, aujourd'hui, on va parler de YouTube et de ses usages.
Oui, on va faire un point ensemble sur l'usage de YouTube en 2018 et puis un certain nombre de révélations quant au fonctionnement de son algorithme de recommandations notamment. Et écoutons, on a trouvé ça très intéressant. On va peut-être revenir sur quelques chiffres sur sur YouTube. YouTube, c'est un mastodonte du web et du social media évidemment. Allez, en vrac, hein. YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche au monde. C'est le troisième site le plus visité après Google et Facebook. Ça représente 400 heures de vidéos qui sont téléchargées chaque minute sur YouTube. Je sais pas, ce qui du coup, c'est énorme.
C'est vrai que c'est énorme.
400 heures, à un moment donné, là, tu as filmé la planète entière, quoi.
Ouais. Oui, c'est vrai qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de recoins de la Terre qui ne sont pas sur YouTube.
C'est bien possible. Ensuite, on regarde 1 milliard d'heures de vidéos YouTube par jour sur cette planète. Et ça représente plus de vidéos en combiné que Netflix et Facebook ensemble.
Pas toujours de la qualité, par contre.
Pas toujours de la qualité, voilà. Et donc, il y a une étude qui vient de sortir. Hein, c'est tout frais. C'est le Pew Research Institute. On en parle souvent de ce Pew Research Institute.
C'est un think tank américain, quoi. C'est un centre de recherche américain.
Exactement. Et donc, ils ont fait une étude qui permet d'y voir plus clair sur l'usage de YouTube en 2018 et aussi le fonctionnement de son système de recommandation. Comment a été faite cette étude ? Eh bien, ils ont interrogé 4500 Américains. Utilisateurs de la plateforme entre mai et mi-juin, donc une période assez courte, mais ça permet déjà d'avoir un certain nombre d'infos. Et la première concernant l'usage de YouTube, c'est que YouTube, ce n'est plus que du divertissement.
Ah non, YouTube, c'est plus que du divertissement. On voit donc dans cette belle enquête, ils nous font ressortir pas mal de chiffres, hein, sur les usages et chez les adultes. On remarque donc que 50% des adultes utilisent YouTube, entre autres, pour découvrir comment faire des nouvelles choses. Donc plutôt sur le côté tutoriel, recettes de cuisine, des choses comme ça.
Ouais, c'est le fameux how-to, hein, dont on a parlé il n'y a pas si longtemps dans un précédent épisode du Super Daily. Le how-to au cœur des recherches de contenu sur YouTube. Et donc effectivement, pour aider à comprendre comment faire des choses qu'ils n'ont jamais faites auparavant. Par exemple, toi, le dernier how-to que tu as cherché sur YouTube.
Aïe, moi, je cherche pas beaucoup de...
Bah, nous, pour le boulot, hein, il nous arrive quand même de
c'est
faire
vrai,
des
c'est
recherches.
Vrai que nous, ça nous arrive,
comment faire ci, comment faire ça, comment utiliser
cette
fonctionnalité.
Quand on doit bidouiller un petit peu du son aussi pour des nouveaux projets ou avec des tablettes... qui sont pas forcément faits pour. Donc c'est vrai que ça, oui, ça, on utilise peut-être pour ça d'ailleurs les dernières fois que je les ai utilisés.
Voilà, et on le dit souvent, mais on va le redire. C'est vrai que YouTube, avant d'être un réseau social, je pense que c'est surtout un moteur de recherche. Et donc c'est vrai que les recherches en how-to, tout ce qui est tutoriel, c'est quand même là que ça se passe. Hein.
Oui, alors après, on a aussi... là, c'était pour... alors quand on dit 50% des adultes l'utilisent pour découvrir des nouvelles choses, il faut bien entendre que c'est entre autres. C'est-à-dire qu'ils l'utilisent pour ça, mais aussi pour d'autres choses. Donc là, on va vous donner des pourcentages. Ça ne sert à rien de les additionner, ça ne fait pas 100%.
Oui, tout à fait.
Il y a des personnes qui sont dans les différents pourcentages. Il y a 28% de ces personnes aussi adultes qui l'utilisent comme un passe-temps. Donc là, voilà.
Donc entertainment pur.
Voilà, je me balade sur YouTube et je regarde des vidéos qui passent.
Un peu tout ce qui passe. Voilà. Je vais voir Ibra Télé et puis une bagarre de MMA entre YouTubeurs, par exemple.
Exactement. 19% l'utilisent pour se décider avant un achat.
Ouais, donc ça, c'est très intéressant.
Ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un pourcentage aussi élevé pour ça, quoi.
Donc effectivement, bah, ça va être quoi, un test produit, hein. Moi, je sais que tout ce qui est review de produits, à un moment ou l'autre, dans ma recherche, je vais passer sur YouTube pour avoir des infos là-dessus. Hein.
Et puis là, on ne parle pas beaucoup aussi, mais dedans, il y a les influenceurs, les influenceuses qui vont tester des influenceurs-influenceuses qui vont tester des produits. À chaque fois, on peut aller voir leurs vidéos pour se dire... Qu'est-ce que j'ai vraiment besoin de ce produit, qu'est-ce qui me permet de faire, etc. Et on va tomber sur leur vidéo.
Autre chiffre plus étonnant, je trouve, ce sont les 19% d'utilisateurs de YouTube qui viennent pour de l'actualité, pour avoir des infos d'actu.
Oui, alors là, moi, il y a deux pourcentages, je voulais en parler avec toi justement, puisqu'on a ces 19% qui sont là pour comprendre le monde exactement. C'est comme ça que c'est décrypté et que c'est traduit en tout cas. Et on a 38% en 2018 qui sont là pour s'informer.
Oui.
Alors, est-ce qu'il y a une nuance entre les deux ? Est-ce que comprendre le monde, c'est les Illuminati et 38% pour s'informer, c'est des informations fiables ? Ou je ne vois pas où...
Oui, alors tu... après, oublions pas que c'est une étude qui a été faite sur des Américains. Donc, comprendre le monde, ça, c'est déjà une grosse action hein, pour un Américain. Hein, parce qu'en général, ils sont assez...
D'ailleurs, comprendre le monde pour un Américain, ça veut dire comprendre l'état d'à côté.
Hein. Voilà. Donc, peut-être qu'il y a un petit peu de ça aussi. Oui, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ce chiffre évolue à la hausse. C'est bah forcément, ça pose toutes les questions qu'on connaît hein, sur les fake news, sur l'accès à des informations de qualité moyenne, non vérifiées, etc.
Alors, le chiffre pour s'informer est en nette augmentation. Il était, alors là, je ne l'ai plus en tête, je crois qu'il était à 19% en 2014, il est passé à 38% en 2018. Donc, ça fait une vraie différence, quoi. Ça devient un média aussi de 20 à 38%, voilà. En 2013 à 2018.
Voilà, et écoute, dans cette étude Pew Research, moi, il y a quelque chose qui m'a surpris, c'est qu'on ne parle pas de musique. Alors oui, on parle de passe-temps, hein, on dit, l'étude
vrai.
Dit, rappelle-moi le chiffre, c'est quoi ? Oui, 21% juste pour passer le temps, donc pour de l'entertainment.
Ce qui me paraît aussi, alors peut-être que c'est 28% pour passer
28%.
Le temps. 28%. Alors, ce qui me paraît aussi pas beaucoup, après peut-être que c'est moi qui en ai plus un usage comme ça personnel et d'autres pas du tout, mais j'avais l'impression que YouTube, c'était surtout pour passer du temps. Moi, j'ai beaucoup de je connais beaucoup de gens qui se sont perdus sur YouTube, on les cherche encore.
Oui, c'est pour passer du temps et c'est pour la musique. Bah, ça, c'est une certitude quand même. Sauf que chez YouTube, c'est une sorte de tabou, ça, le rapport à la musique. C'est vraiment étonnant. Juste quelques chiffres additionnels pour compléter cette étude de Pew Research. Il y a une étude qui avait été faite par Ipsos en 2017 pardon, et qui disait que la plateforme de streaming vidéo YouTube, hein, elle a attiré 46% de la totalité du temps d'écoute globale de musique en streaming dans le monde. Donc, autant dire quasiment la moitié. C'est plus que Spotify et Deezer réunis. On dit même que, c'est assez un chiffre qui circule, que 40% des recherches sur YouTube portent sur la vidéo. Et puis, il y a même une étude qui a été réalisée
sur la vidéo ou la musique ?
Sur la musique, ouais, pardon, excuse-moi. Et une étude réalisée par PEX prouve que la musique est de loin la catégorie la plus regardée, avec un trafic global supérieur à 27%. Alors, on se dit, bah, c'est normal, effectivement. Tout le monde, à un moment donné, cherchait un clip de Madonna.
Pourquoi pas,
voilà.
Pourquoi pas, Thibaut, si tu cherches des clips de Madonna.
Tout le monde à un moment donné a cherché un clip du Gangnam Style sur YouTube. Sauf que bah, YouTube dément et dit ah non, mais alors pas du tout. La consommation de musique sur notre plateforme, alors vous y êtes pas du tout, les amis. Ça représente plutôt à peu près une heure par mois par utilisateur. Alors c'est très étonnant, on va vous mettre les liens hein, de ces différentes informations sur le résumé du podcast. Donc c'est vraiment étonnant et en fait, bah, pourquoi on a ce tabou chez YouTube ? Eh bien parce que la musique au cœur de YouTube, ça pose deux problèmes. Le problème, c'est les droits liés à la musique, hein, forcément, et le reversement de royalties aux ayants droit. Et on sait que là-dessus, YouTube a beau faire des efforts, ils sont quand même loin du compte encore. Et puis, le deuxième problème dont on parle finalement relativement peu, c'est la monétisation des contenus et l'usage audio-only de YouTube. Je m'explique, mais je trouve qu'on fera un épisode de podcast rien que là-dessus. C'est si 40% de mon usage, ou du moins 27% des vidéos qui sont regardées sur YouTube sont en audio-only, c'est-à-dire exclusivement pour faire une espèce de Spotify, bah, tout ce qui est publicitaire dans la plateforme pose un problème parce que je vends des espaces publicitaires sur un contenu qui est consommé de façon audio exclusivement. en tâche de fond derrière. Et donc, forcément, pour YouTube, c'est des chiffres dont ils n'ont pas forcément envie
de trop parler.
Bon, voilà. C'était un petit crochet sur
Mais c'est assez intéressant parce que dans leur pourcentage, ils n'en font... Là, par exemple, même dans le pourcentage de cette recherche qu'on a, de cette étude, voilà, on n'a pas de chiffres sur la musique. On imagine que ça rentre dans passe-temps, du coup, mais on n'a pas de chiffres spécifiques là-dessus. On en a plus tard qu'on va vous donner sur les vidéos recommandées, mais pas sur les usages.
Et oui, c'est le tabou YouTube. Et ça, c'est vraiment étonnant de ce manque de transparence de YouTube sur ses contenus audio, ses contenus musicaux.
On sait que c'est une plateforme qui est gratuite, contrairement à Spotify ou Deezer, où il faut quand même s'abonner à un moment donné pour pouvoir profiter vraiment... De tout le parc musical, j'ai envie de dire. Mais sur YouTube, on peut consommer de la musique autant qu'on veut, aussi longtemps qu'on veut, sans restriction. Donc c'est normal que ce soit une des plateformes les plus utilisées pour ça. Et puis, on sait à quel point dans l'industrie musicale, le clip est devenu ultra important pour vendre sa musique. Et du coup, forcément, YouTube a une place primordiale dans tout ça. Alors maintenant, il y a d'autres plateformes qui se montent à côté, hein, mais
d'ailleurs,
petites, comme Facebook.
C'est un secret de Polichinelle, hein, cet usage de l'audio à fond sur YouTube, parce que YouTube a quand même monté YouTube Music,
oui.
Sa propre plateforme de clips et de streaming audio. Donc bon, tout le monde est à peu près au courant de ça, sauf YouTube qui ne veut pas le dire publiquement. Et pour revenir à l'étude, on va parler maintenant de l'algorithme et des contenus
recommandés.
Oui, les contenus les plus poussés sur YouTube. Donc là, le principe,
ça,
c'est que... Voilà, le principe, c'est qu'ils ont cette étude a analysé 50 contenus vidéo les plus recommandés sur la plateforme. Et parmi ces 50 vidéos, eh bien, il y avait...
En 1, les clips musicaux.
Exactement, avec 14 clips musicaux recommandés et poussés par la plateforme.
Exactement.
Ensuite, on allait trouver 11 programmes télé.
Ouais.
Et puis 11 vidéos à destination des enfants. Là, on vous donne le top 3. À noter que les petits animaux mignons, hein, les lolcats, etc., ne concernent que 2 vidéos parmi les 50 les plus recommandées.
Oui,
par
c'est vrai, parce qu'après en dessous, on a du sport aussi qui est en 5e position. Enfin voilà, Mais moi, ce que je trouve super intéressant, c'est que dans le top 3 et qui quand même domine assez largement les autres. On a les clips vidéo, les émissions de télé et les programmes pour enfants. Et quand on y regarde de plus près, on se dit, mais en fait, ces trois programmes-là, ces trois programmes qui existaient déjà avant YouTube et qui étaient diffusés à la télévision et qui continuent même aujourd'hui d'être encore diffusés à la télévision.
Ouais, il manque que William Lémergie et Michel Drucker.
Exactement. Ouais, parce que les clips, ça passe encore à la télévision. Ça passe très tard la nuit sur des chaînes de la TNT. Et pas grand monde regarde ça maintenant qu'ils sont accessibles sur YouTube, mais ça passe encore. Et avant, c'était une grosse partie de l'antenne. Les clips télévision, les clips
à la grande
de
époque
musique.
De MCM, MTV, etc.
Ouais, le Hit Machine, ouais. Tout ça, c'était vraiment une grosse partie de ce qui passait à la télévision. En deux, donc on a les émissions de télé. Donc là, c'est directement de la VOD de ce qui passe à la télé qui est repoussé
du
sur
replay,
YouTube.
Hein, ni plus ni moins.
C'est ça. Et tout ce qui est pour les enfants, donc dessins animés, pareil, c'est des trucs qui passent à la télé. Donc on se retrouve en fait avec un contenu qui est le plus poussé et qui est le plus poussé parce que c'est aussi le contenu qui fait partie des contenus les plus regardés. Donc c'est aussi pour ça qu'on retrouve ces trois contenus-là en tête des contenus recommandés.
Mais ça, c'est marrant parce que, comme tu dis, hein, YouTube, c'est une sorte de télé 2.0. Hein, ça, c'est toi qui me disais ça. C'est la télé de demain. C'est vrai que c'est rigolo parce que c'est une télé qui, en plus, ne mouille pas vraiment la chemise pour pousser des créateurs de contenu. Et souvent, les créateurs de contenu sur YouTube se plaignent, hein, de la manière dont fonctionnent les logiques de recommandation. Le fait que l'algorithme laisse très très peu de place aux contenus émergents, aux nouveaux contenus, aux créateurs de génie, hein, de talent qu'on peut trouver sur cette plateforme.
Bien sûr, on peut rentrer un peu plus dans le détail de l'algorithme, mais l'algorithme fonctionne d'une manière quand même assez particulière puisque déjà YouTube déclare lui-même, hein, qu'il y a 70% des vidéos regardées qui viennent des recommandations. Donc
ouais,
c'est quand même assez énorme. Ça veut dire que dans les utilisateurs, il y a les 2/3 de leur consommation de vidéos, ça vient de ces recommandations. Donc ça laisse peu de place pour aller trouver du nouveau contenu où c'est pas YouTube qui vous le recommande, quoi. Et YouTube, de façon assez maligne, essaye de garder ses utilisateurs le plus longtemps possible sur sa plateforme. Donc ce que fait YouTube et l'algorithme de YouTube quand il propose du nouveau contenu à ses utilisateurs, il leur propose un contenu qui petit à petit va être de plus en plus long, de vidéo en vidéo. et qui est quand même susceptible hein, de les intéresser. Donc, il se dit, pour que ça les intéresse et que j'ai plus de chances que ça les intéresse, je vais leur proposer des vidéos dans le même genre que ce qu'ils ont regardé, mais en plus populaire. Et donc, il va lui proposer des contenus qui sont en plus populaires. Je m'entends, hein, c'est en nombre de vues hein, que YouTube compte. Donc, il va proposer des contenus, en gros, de vidéos de plus en plus longues et qui sont déjà de plus en plus vues. Donc, quand vous êtes un jeune créateur, ou pas jeune d'ailleurs, mais quand vous êtes un créateur sur YouTube émergent et que vous avez envie de vous faire une place dans l'audiovisuel d'Internet, c'est très difficile de pouvoir ressortir dans ces recommandations parce qu'il faut que vous arriviez à produire et du contenu un petit peu plus long et en même temps que vous ayez déjà un certain nombre de vues pour que YouTube vous propose à ses utilisateurs. Donc, ouais. Ce qui rend les choses très compliquées.
C'est une partie de l'étude que je trouve effectivement passionnante. Et là, on apprend vraiment quelque chose. Ils ont fait une étude sur 10 000... alors là, c'est une autre partie de l'étude sur 10 000 Américains où ils ont étudié, vous savez, les suggestions de vidéos sur la colonne de droite là, quand vous êtes sur YouTube et qui vous dit « Tiens, ces vidéos-là pourraient vous intéresser aussi. » Et effectivement, ça montre qu'après visionnage... plus on regarde de vidéos et plus la plateforme va proposer des contenus qui sont plus populaires et plus longs. Et ça, oui. C'est vraiment étonnant et c'est quelque chose que on ne savait pas.
Non, ça, c'est quelque chose qu'on ne savait pas et enfin, moi que je ne savais pas du tout, même si je m'étais rendu compte quand même que sur le plus populaire, le plus long, j'avais jamais vu ça tout seul parce que j'avais jamais fait gaffe à ça.
Donc, c'est marrant parce que, logique, juste hein, parce pour que... revenir sur le plus long, ça veut dire que YouTube a une stratégie, l'algorithme de YouTube a une stratégie qui est celui de captation d'audience et puis après de fidélisation et il se dit petit à petit, je vais lui proposer des contenus qui sont de plus en plus engageants en termes de rétention, en temps de lecture. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec des taux de rétention YouTube qui sont bien plus élevés que sur une plateforme comme Facebook. Et ça, c'est intéressant de voir que c'est dès la base de l'algorithme, il y a eu un travail qui est fait pour garder les gens le plus longtemps possible sur YouTube.
Ah mais bien sûr, on se rend compte dans l'étude, alors il nous parle dans l'étude entre la première et la quatrième vidéo que vous regardez en recommandation, donc qui se suivent, vous avez une augmentation moyenne de 5 minutes de la durée totale de la vidéo. Donc en fait, on essaye, c'est vraiment léger, hein, mais on essaye petit à petit, enfin YouTube essaye petit à petit, effectivement, de vous garder le plus longtemps possible, et ça paraît logique hein, de vouloir vous garder sur la plateforme, mais ça, je m'en étais jamais rendu compte tout seul, comme je disais. Mais je m'étais rendu compte, par contre, qu'il vous propose des vidéos de plus en plus populaires, et notamment quand vous regardez des clips musicaux sur YouTube, en général, si vous commencez avec un clip de quelqu'un de vraiment très, très peu connu, il va vous proposer dans la foulée des vidéos un peu du même type d'artiste, qui est à peu près le même nombre de vues. Puis après, un peu plus gros. Et puis très rapidement, au bout de 3-4 vidéos, vous allez vous retrouver sur des gros tubes, sur les gros tubes interplanétaires, quoi. Donc ça va quand même assez vite, ce côté-là. Si vous le laissez tourner en aléatoire, YouTube, il vous emmène tout de suite sur des vidéos à des millions de vues, quoi.
Voilà, donc ça c'est intéressant et effectivement ça soulève pas mal de questions et notamment comment émerger sur cette plateforme YouTube parce qu'on se rend compte que cet algorithme ne facilite pas la vie des nouveaux contenus et puis aussi des créateurs de contenus. Alors ce qui est certain c'est on va privilégier comme souvent sur YouTube les contenus longue forme, hein, donc essayer de se rapprocher des 2 minutes voire davantage, mais après se pose la question effectivement de se retrouver dans une espèce de télé en ligne qui ferait de la recommandation exclusivement sur de la vidéo très populaire et donc on retombe dans un truc qui est si c'est très populaire c'est peut-être pas fait pour moi, en tout cas c'est peut-être pas le contenu que je veux, moi je veux du contenu de niche, etc. Et c'est vrai que si on suit le cheminement de recommandation on se retrouve très très vite dans du contenu tout à fait mainstream.
Après ce qui est intéressant avec YouTube c'est que les deux contenus existent, donc si vous cherchez du contenu de niche vous le trouverez et vous allez décocher la lecture aléatoire et vous serez plus embêté par la recommandation YouTube qui tourne en boucle.
Voilà, donc ça c'était quelques infos sur... tu as noté d'autres choses toi sur cette... voilà, on vous invite, de toute façon on va vous mettre le lien hein, vers cette étude complète du Pew Research Center, très intéressant. On a appris pas mal de choses ce matin sur l'usage en 2018 de YouTube et puis le fonctionnement de cet algorithme de recommandation.
Ouais, très intéressant. On essaye d'aller à l'étude de plus près, hein, quand même, parce que là, on vous en a fait une petite loupe dessus sur les choses qu'on a relevées, mais il y a des choses très intéressantes. Hein, allez, regarde.
Il y a notamment des choses sur la consommation des enfants.
Oui, si vous êtes parent, vous pouvez aller jeter un coup d'œil, c'est très utile.
C'est flippant. Voilà, on espère que ce contenu vous a intéressé. Évidemment, si vous souhaitez en discuter avec nous, on est à votre disposition sur les réseaux sociaux, @supernatif.
Sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. Et bien sûr, vous pouvez retrouver notre podcast sur les plateformes de podcast, donc il y a Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify, oui, effectivement. On est un petit peu partout, mais surtout, allez laisser un commentaire, abonnez-vous, partagez-le à vos amis, parlez-en tout le temps, toujours. Ça nous fait plaisir. et puis nous, on vous souhaite une bonne journée.
On vous souhaite une très bonne journée.
Sans soleil, mais une bonne journée.
Et on vous dit à demain. Salut.
Allez, ciao.